Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Soyez les bienvenus dans l'émission Du vent dans les pages. Oui, je suis un peu perdue parce que en fait, il fait du soleil. Je suis fatiguée et c'est l'avant-dernière de l'année. Alors, je suis trop triste en plus.
Et nous donc.
Bonjour Anne-Catherine. Heureusement que vous êtes là.
Bonjour. Bonjour Véronique.
Et ben on va commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Voilà, directement dans la littérature, tout de suite, baignée avec Catherine.
Hein, oui.
On y va.
Alors je suis là, j'ai le cœur entre mes deux livres qui ne se ressemblent pas du tout. J'ai quand même réussi à trouver des points communs entre ces deux livres. Les deux sont petits, hein, ils ne sont pas très gros. Il n'y en a aucun des deux qui dépasse 150 pages. Ça peut être déjà quelque chose.
Pas mal.
Et les deux partent d'un événement historique. Mais aucun des deux n'est un roman historique. Ça, voilà, j'ai trouvé ça comme point commun parce que je me dis, mais qu'est-ce
ah
que...
Ah oui, c'est pas une devinette.
Ah non, pas du tout. Maintenant, plouf. Allez, on va commencer par celui-là. Alors, je vais prendre le plus ancien. En fait, je vais commencer par un auteur que tout le monde peut-être ne connaît pas et qui a quand même une particularité pour nous, c'est qu'elle est de notre région, elle est des bords de Loire, et c'est une grande amoureuse de la Loire. Alors, il s'agit de Michel Desbordes. Et je voulais parler d'un de ses romans, La Demande. Alors, soyons clairs, ceux qui ne supportent pas la poésie, les moments où, semble-t-il, on est complètement inactif, tout ça, eh ben, passez votre route.
Ouais. Il y en a. Hein.
Voilà. Voilà. Non, mais je préfère le dire. Mais ceux qui, à première vue, n'aiment pas, mais ont envie d'essayer, bon, ça fait un peu plus de 120 pages, donc c'est quand même pas très dangereux. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, d'abord, pour parler de Michel Desbordes, parce que j'ai fait une allusion à la région, bah, c'est quelqu'un qui est né en Sologne, hein, donc vraiment pas loin de nous, de Saint-Cyr-en-Val, qui a vécu une grande partie de sa vie à Orléans, et qui a même fini sa vie dans notre région, puisqu'elle est morte prématurément, elle devait avoir 65 ans. Comme beaucoup de gens, d'un cancer, évidemment. Voilà. Et Michel Desbordes a toujours été amoureuse des livres, avant même d'écrire. Elle fréquentait la bibliothèque d'Orléans quand elle était enfant. Et elle croisait le bibliothécaire de l'époque qui s'appelait Georges Bataille.
Ah oui.
Quand même. Et elle est devenue bibliothécaire. Moi, je l'ai connue puisqu'elle était conservateur et elle dirigeait la bibliothèque universitaire d'Orléans. Donc voilà, parfois, il faut avoir une vie à côté quand on est trop poète. Et donc, elle a écrit un certain nombre de... Enfin, elle a écrit d'abord de la poésie, des romans, des essais. Et La Demande a une particularité. Alors, j'ai dit que ça partait d'un événement historique, oui. La relation, la rencontre entre deux personnages qui n'ont pas beaucoup de raisons de se croiser, si on peut dire, ou juste de se croiser, mais sans se remarquer. Un maître incontesté de la peinture, un grand artiste, et une servante. Voilà. Et Michel Desbordes ne cite jamais, c'est-à-dire elle le traite comme une fiction. Elle parle de cet artiste qui est venu en France, appelé par le roi de France. Le roi s'appelait François Ier. Je pense que vous commencez à savoir qui est ce personnage.
Il me semble, oui.
Voilà. Et il s'est installé pas loin d'ici. Évidemment, on pense tout de suite à... Alors, il avait sous le bras, quand il est venu, pour vous aider, un de ses tableaux qui s'appelait La Joconde.
Oui, ça me dit quelque chose aussi. Hein.
Ah
ouais.
Bon
ouais.
Voilà, il faut que je réfléchisse. Bon, ben, comme vous voulez. Hein. Donc, quand il arrive en France à la fin de sa vie, hein, puisque c'est un vieil homme, si on peut dire, donc ce grand maître italien, dont elle ne cite jamais le nom, il a été donc invité par François Ier pour établir les plans d'un futur château destiné à montrer la puissance du roi.
Que de mystère.
C'est fou, hein. Alors, on peut gamberger autour de tout ça. Donc, il quitte l'Italie et il rejoint, par un long voyage, les bords de Loire qu'il n'a évidemment jamais vus. Alors, on va quand même se permettre de lui donner un nom, hein, même si c'est abusé. On va l'appeler Léonard de Vinci, mais bon, on n'est pas obligé. Hein, voilà. Donc, c'est quand même... quand je disais c'est de la poésie, c'est quand même une langue très particulière. C'est la rencontre complètement silencieuse, si on peut dire, entre ces deux personnages très différents, qui ont aucune raison, qui ont des raisons de se côtoyer, mais c'est tout. C'est deux mondes complètement différents. Et ces deux personnages vont se croiser et un peu au-delà, puisque la servante va avoir, vers la fin de sa vie, une demande à faire au maître, voilà, ou une proposition à lui faire. Je vous lis quelques lignes pour que vous voyez un petit peu. Oui. C'est à peine s'ils la virent en entrant. Elle lavait dans les cours, allait et venait le long des murs avec les seaux et les linges mouillés, tordus d'un coup de poignet, petite, tout habillée de gris, seule brillait le blanc de la coiffe. Elle jetait l'eau sur les pavés puis repartait au puits tandis que le soleil montait dans le ciel, atteignait le haut des chênes. Elle avait entendu les chevaux sur le chemin et quand ils passèrent les dernières maisons, les aboiements des chiens derrière les murs, les voix à l'approche de la demeure étrangère, sonore dans le ciel clair de printemps, midi approché. Elle les attendait depuis longtemps, les attendait chaque jour en vérité. Depuis Lyon et Romorantin, le message était venu jusqu'ici. Il n'allait pas tarder, c'était une affaire de jour. Il serait là pour le dernier dimanche d'avril. Voilà comment commence ce récit tout simple. Un autre passage. Le soleil montait dans le ciel, touchait le haut des grands ifs. Bientôt, baignait la cour de lumière, accroupie sur ses talons, elle lavait les marmites avec le sable qu'elle tirait d'une bassine. Il sortait, se retournait vers le fond de la maison et demandait qu'on préparât le cheval, puis descendait aux écuries. Il s'éloignait au pas sur le genêt par le chemin des falaises, les bois d'acacia, des hauts de la ville. Il allait retrouver le roi, lui donner son avis sur le rêve de gloire et les châteaux à construire, le fleuve à détourner de son cours. Certains jours de ciel clair, la table était disposée près des fenêtres et il regardait l'île plantée de peupliers et tout autour le fleuve si large qu'on aurait dit deux fleuves coulant l'un près de l'autre. L'île s'appelait l'île d'or, à cause de la lumière soir et matin dans l'eau du fleuve. Ou bien il chevauchait une heure ou deux vers Mont-Louis et Chaumont, il regardait le fleuve, la lumière pâle, irisée, les eaux certains jours presque immobiles, comme arrêtées, prise dans un gris où brillaient les ors légers, insondables, un enfant courait sur le chemin en chantant d'un pied sur l'autre, chantait éperdument, seul comptait l'instant. Les bonheurs entrevus d'un coup, aussi forts, aussi fous que les bonheurs d'amour. Alors, je pourrais continuer tout le temps parce que c'est très, très tentant.
En plus, on retrouve tout à fait la Loire. Hein.
Voilà, c'est... alors, pour les amoureux de la Loire, il y a des pages superbes, puisque vraiment ça se passe au bord de la Loire et... Voilà, c'est tout comme ça. Il y a beaucoup de passages donc, sur la Loire, sur les paysages. Et puis, des descriptions, mais le mot description est très faible, mais une sorte de capacité à traduire
l'émotion.
Et puis, ces deux personnages qui ne se parlent pas. Et on parlait de peinture, mais c'est une peinture de ces deux portraits, de ces deux... forme de vie. Tous les deux sont vieillissants, même si on ne sait pas l'âge de la servante, mais tous les deux sont vieillissants. Tous les deux ont vécu des épreuves. Et malgré qu'ils soient de deux mondes complètement différents, de pays différents, on sent une relation bêtement humaine, tout simplement, entre ces deux êtres. Donc, il se passe quelque chose. D'un côté, un créateur qui a l'œil du créateur, donc qui la regarde aussi comme ça. Et puis pour elle aussi une grande sensibilité, c'est-à-dire lui il a bougé un peu partout, pas dire dans le monde entier, mais enfin il a quand même bougé, il a découvert beaucoup, il a une vie très riche, et elle n'a jamais quitté son bord de Loire. Et pourtant ces deux êtres ont quelque chose à se dire, mais sans prononcer un mot. Dire c'est vraiment très beau. Alors l'écriture, moi j'ai trouvé que c'est une écriture magnifique. Elle est à la fois très fine. Elle est pleine de retenue. Elle décrit les petits riens qui font la vie de tous les jours. Et c'est ça, la puissance de ce texte. Et puis, il y a des très, très belles pages. Alors, j'ose pas m'embarquer, mais aussi sur Léonard de Vinci, si je peux me permettre de le citer. Elle imagine un peu sa sensibilité d'artiste, son œil d'artiste, sa philosophie aussi, d'une certaine façon, parce qu'il faut savoir que même si c'était un personnage célèbre, il a quitté l'Italie, il a vu aussi la faiblesse des créations humaines, puisque je crois qu'une bonne partie de ses fresques avait été détruite par l'humidité. Enfin, vous voyez bien que Bon, quel avenir aurait sa Joconde ? Sa Joconde, il l'a fait venir d'Italie dans son chariot. Allait-elle avoir un avenir ? Allait-elle finir là ? Bon, nous, on en sait un peu plus, mais voilà.
Mais quand tu disais que c'était propice à la contemplation, je dirais, c'est plus dans l'écriture ou c'est plus dans la... comment dire
dans l'évolution,
dans l'évolution du sujet, voilà. Est-ce que tu parlais de poésie, tu parlais oui de contemplation, de prendre son temps,
voilà,
etc.
C'est-à-dire que c'est vrai que celui qui aime l'action va se dire mais elle est où l'action ?
D'accord.
Elle est où l'action ? C'est un dialogue de non-dit, mais il se dit tellement de choses comme ça. Tous les deux vivent le moment présent. C'est-à-dire, quelle que soit leur différence de niveau intellectuel, de niveau culturel, les deux regardent, les deux voient le même paysage et partagent, alors, avec une philosophie. C'est-à-dire que cette femme, elle a passé son temps à servir les autres. On verra qu'elle a, elle a eu une vie, un secret, il y a quelques... j'allais dire comme tout le monde, mais tout ça n'a pas d'importance. Elle vit au moment, elle est là, et bon, sa demande est liée au fait qu'elle a accepté l'idée qu'elle va bientôt mourir et qu'elle voudrait servir à quelque chose. Voilà. Et sa demande tient à ça, auprès de ce personnage. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, parce
on n'a pas trop de temps.
Voilà. Désolée. Mais pour ceux, vraiment pour ceux qui aiment la Loire, tout bêtement, pour ceux qui ont envie de découvrir une superbe écriture, et elle n'a pas écrit que ça, voilà, je vous conseille donc La Demande de Michel Desbordes. C'est aux éditions Verdier. Et il a été publié, alors c'est un vieux livre, entre guillemets, en 1998. Voilà.
Donc les éditions Verdier, imprimées à Vendôme.
Ah, il a même été imprimé à Vendôme.
Imprimé à Vendôme.
Voilà. L'auteur était à côté, imprimé à Vendôme. Oh, c'est tout de chez nous. Hein.
Tout de chez nous.
Donc voilà, c'est une lecture que je conseille pour ceux qui sont prêts à s'ouvrir à la beauté de la langue. Ah. Voilà.
Anne, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Ah oui, alors moi, ce n'est pas du tout ça.
C'est ça le but,
ça tombe bien.
Alors moi, je vous propose une comparaison de deux caractères qui sont deux caractères de colère, deux caractères de rébellion, de violence. Monet, c'est le combat permanent contre le... comment dirais-je les... l'administration, contre les peintres du passé, contre ceux qui veulent l'empêcher d'aller au salon et qui considèrent que sa peinture n'a absolument rien à voir avec de l'art. Clémenceau, lui, c'est le politique parfait, c'est le républicain pur jus, c'est celui qui se bat contre Thiers avec les communards, c'est le maire de Montmartre, c'est le député du Var, qui a été élu vraiment contre toute attente parce que vraiment la campagne avait été violente. Alors, comment se sont-ils rencontrés ? D'abord, ils ont le même âge. Ils sont nés tous les deux entre 1840 et 1841. Et l'un est vendéen, l'autre est du Havre. Georges Clémenceau arrive de sa Vendée. Il est étudiant en médecine. Il est en train de préparer l'internat, qu'il va rater d'ailleurs. Et il monte à Paris pour ça. Et c'est le fils d'un médecin également, et d'un médecin républicain qui a eu droit à un séjour en prison sous Louis-Philippe parce qu'il était, c'était un protestataire convaincu. Et Claude Monet qui arrive du Havre, son père lui a coupé les vivres, il a une toute petite pension qui lui est faite par sa tante, et il ne veut pas faire autre chose que peindre. Donc, c'est déjà un peintre maudit au départ, puisqu'il passe son temps à quémander de l'argent à tous les copains qu'il se fait dans la profession. Basile, Manet, également... c'est Pissarro. Excusez-moi, j'avais un trou. Alors, ils se rencontrent, ils ont 21 ans, dans un café. C'est une rencontre bonjour, bonsoir, et ça n'aura pas de suite. C'est dans les années 60. Mais chacun va suivre la carrière de l'autre avec intérêt parce qu'il y a eu un regard intéressant de l'un sur l'autre. Dans les années 90, D'abord, la guerre de 70 passe. Clémenceau s'implique énormément, puisqu'il deviendra maire de Montmartre. Monet, lui, n'a qu'une hâte, c'est filer, parce qu'il ne veut pas entendre parler d'aller se battre, contrairement à Bazille, qui mourra à Beaune-la-Rolande. Et donc, Monet, lui, s'en va à Londres. C'est un bonheur pour lui, dans la mesure où il fait la connaissance du marchand Durand Ruel, qui va tout du long de sa carrière être derrière lui, le soutenir, le conseiller, lui acheter ses tableaux, faire des expositions, d'abord dans son magasin, ensuite dans des galeries, qui va vendre ses tableaux, en particulier aux Américains, parce que bien que Monet soit considéré comme un cracheur de tubes en France, aux États-Unis, on l'admire énormément. Et dans les années 90, intervient l'affaire Dreyfus. Clémenceau a un journal à cette époque, il possède le journal La Justice. Monet est Dreyfusard, tous les deux se battent aux côtés de Zola. Même si Monet, Zola, on n'est pas très copains parce que Monet Zola a écrit l'œuvre et la représentation, enfin la clé de l'œuvre, c'est Monet. Donc il n'a pas apprécié du tout d'être dessiné comme ça. Et donc ils se suivent au moment de l'affaire Dreyfus. Et ensuite, il y a une très grande amitié qui se fait entre Clémenceau et Monet, dont la clé est l'œuvre de Manet, l'Olympia, qui va être rachetée par des Américains. Monet hurle, il n'est pas question que l'Olympia soit racheté par des Américains, et il fait appel à Clémenceau, qui à l'époque est ministre de l'Intérieur, je crois. Et Clémenceau, en trois coups de cuillère à peau, fait admettre l'Olympia au Louvre. Donc, il lui est extrêmement reconnaissant de ça. De son côté, Clémenceau suit les œuvres, différents paliers de l'œuvre de Monet. Et je vous lirai tout à l'heure, à la fin, parce que c'est plus facile, ce qu'il écrit à propos des cathédrales. Mmh. Alors, il faut parler un petit peu de la façon dont Monet travaille. D'abord, il travaille en plein air. Ensuite, il cherche en permanence à saisir la lumière par la couleur à un moment donné. Et donc, il installe jusqu'à 40 toiles les unes à côté des autres et il court de l'une à l'autre en faisant des tâches pour essayer de récupérer un jaune, un bleu, un vert. Par exemple, les coquelicots sont faits comme ça. Il a planté ses toiles en plein champ et il va de l'une à l'autre comme ça, au point que la fermière qui est derrière dans la ferme à côté le prend pour un fou, littéralement. Et on arrive à cette fameuse série des cathédrales qui est vraiment le top. Et Clémenceau est saisi par la beauté de ces différentes toiles. Et il fera, dans la justice, il fera une critique à ce sujet. Et arrive la guerre de 14. Clémenceau, naturellement, s'implique, comme tout le monde le sait. Monet, lui, est obligé de s'impliquer dans la mesure où ses deux fils sont sur le front, dont un qui avait été blessé et qui a demandé à repartir volontaire dans les tranchées. Et Monet décide, en 1917, de donner des toiles à l'État en remerciement de la force de l'armée française et du courage des soldats dans les tranchées, en disant que lui n'est pas capable d'aller se battre, est trop vieux pour aller se battre, mais que c'est sa façon à lui de participer à l'effort de guerre. Et les fameuses toiles en question, ce sont les nymphéas. Donc, les nymphéas, ça représente déjà 40 toiles détruites, parce que Monet, quand il n'était pas content de ce qu'il faisait, il fichait ses toiles au feu. Une série récupérée par Durand Ruel et envoyée pour faire une exposition aux États-Unis. Et on se retrouve avec la dernière série des nymphéas sur laquelle il va travailler entre 1917 et 1927, date de sa mort, avec tout un tas d'ennuis. D'abord parce que c'est quelqu'un qui veut toujours la perfection et qui ne la trouve jamais, qui se décourage très facilement, qui a des problèmes d'argent oscillants, donc son moral oscille en même temps que les problèmes d'argent, et qui perd la vue. L'horreur absolue pour un peintre, et Monet a peur de se faire opérer. Clémenceau le soutient, lui écrit, vient le voir. Ils ont tous les deux une maison de campagne avec un jardin merveilleux. Monet à Giverny et Clémenceau à Bernouville. J'ai oublié le nom, enfin c'est un nom comme ça. Et maison d'ailleurs, cette fameuse maison de Clémenceau qu'il n'a jamais fini de payer. Il avait fait un énorme emprunt pour pouvoir se l'offrir. Et il a payé toute sa vie jusqu'à la fin. Et donc, voilà, arrive... alors, comment est construit ce livre ? C'est important. Les 40 premières pages sont consacrées aux 10 dernières années, la fabrication des nymphéas. Et l'amitié très forte que Clémenceau a portée à Monet, et l'a portée pour arriver au bout, parce que la donation à l'État, c'était un don à la France, et il ne s'agissait pas de plaisanter avec ça. Il avait donné sa promesse, donc il fallait aller au bout. Et ensuite, c'est le chapitre par chapitre, un chapitre Clémenceau, un chapitre Monet qui vous amène jusqu'à la fin. Voilà. Alors, j'ai 4 petits morceaux.
Oula, ça ne va pas être possible.
Non, ça ne sera pas possible.
Mais 2 petits morceaux.
2 petits morceaux. Ouais, alors, allez, voilà, 2 petits morceaux. Alors, oui, on va même n'en dire qu'un.
Une demi-heure, c'est trop court, hein, mais ouais. Je sais. Hein, mais bon.
On va même n'en dire qu'un si vous me donnez 2 minutes. Voilà. Il y a une dimension très française dans la peinture de Monet. J'ouvre les guillemets. La campagne de Monet tenait sa richesse de sa variété, à la fois sauvage et domestiquée. Des paysages dramatiques de mer et de rochers alternant avec des compositions à base de peupliers ondulants et de meules majestueuses. La France offrait, dans une lumière radieuse et bienveillante, un spectacle à couper le souffle, celui d'un pays rendu fertile par la main de l'homme. Il y avait de la grandeur, une grandeur due aux petites gens qui avaient mis le sol en valeur et recueilli ses fruits. Ça, c'est un commentaire de Clémenceau. Réponse de Monet. Une lettre écrite le 19 septembre 1918, donc après la victoire. « Mon cher et grand ami, comme je voudrais vous embrasser et vous dire combien je suis très fière de votre amitié. Vous êtes un homme admirable auquel nous devons la prochaine et complète victoire. Comme vous devez être fier, mon vieil ami, de votre vaillance. Voilà plus d'un an que nous ne nous sommes vus, mais j'espère venir à Paris bientôt et je compte vous demander, sinon une audience, tout au moins quelques instants pour vous dire tout ce que j'éprouve et vous serrer dans mes bras, car vous êtes notre sauveur et c'est par vous que Poilu et Civil tiennent le coup. » L'amitié de Clémenceau et de Monet s'est nourrie de 2 lumières au service d'une certaine idée de la France, celle de la République et celle de l'impressionnisme. Liberté de créer, liberté de vivre. Et Monet, qui est l'artiste qui a le plus peint de drapeaux français, d'inscrire sur l'un d'eux en lettres d'or « Vive la République ». Voilà, alors ce livre a été commenté par Alexandre Duval-Stalla à la Légion d'honneur et j'aime autant vous dire que le grand chancelier buvait du petit lait.
Donc, tu peux rappeler le titre.
Ouais. Donc, le titre est un peu long, mais il suffira de dire Claude Monet, Georges Clémenceau, biographie croisée, d'Alexandre Duval-Stalla, Duval-Stalla, Stalla, chez Gallimard et dans le livre de poche.
Voilà, il vient de sortir en livre de poche.
Voilà.
C'est ça.
Voilà. Si l'une de vous deux veut le lire,
oui,
je vous le prête avec plaisir.
Chouette. J'étais en train d'écrire la référence.
Voilà. Ah, alors, mon deuxième livre, je vais peut-être attaquer dans la suite.
Si, hein. Pas de problème.
Mon deuxième livre, je vais en parler très vite. C'est un polar. C'est un délice. C'est à la fois un polar haletant et qui se termine d'ailleurs... Enfin, je ne pense pas qu'on ait pu trouver exactement la solution, si on est honnête. Et c'est en même temps une promenade dans Venise à la suite d'un héros qui s'appelle le commissaire Brunetti, qui est fou de Tacite et d'Hérodote et qui fout de sa ville également, qui a une femme héritière d'un doge et communiste à fond, professeur d'histoire à la faculté de Venise. Et les personnages sont délicieux, autant les premiers que les personnages suivants. Et j'ai adoré. C'est le premier de Donna Leone. Elle en a écrit 14 ou 15. Je les ai tous, je précise. Et la particularité, parce que c'est quand même important, la particularité de Donna Leone, qui est un professeur d'histoire chez les Américains à côté de Venise, la particularité de Donna Leone, c'est que dans tous ses livres concernant Venise, elle évoque un sujet chaud, un sujet que les Italiens refusent de mettre sur la place, autant l'intégration que le vol des œuvres d'art, que les déchets, l'art en soi et la sauvegarde du patrimoine, les heures.
Et tous ces romans se passent à Venise ?
Tous.
Tous, d'accord.
Intégralement. Et quand par hasard, c'est un petit peu à l'écart de Venise, on revient très, très vite. Ouais. Très bien. Et au début, elle n'était pas traduite en italien. Ouais. Elle habite Venise depuis 30 ans maintenant. Je l'y ai croisée. Elle refuse qu'on lui parle. Alors, quand elle marche, elle est raide comme un manche à balai, les yeux par terre, en espérant qu'on va lui laisser le passage. Ouais. Tout le monde la connaît et tout le monde s'écarte pour la laisser passer. Je trouve ça formidable. Voilà, je peux raconter encore une anecdote
ou... Oui, bien sûr.
Juste un petit. Ah, bon, ouais. Elle a été interviewée sur Arte il y a quelques années. Et elle racontait que quand elle est arrivée à Venise, la première chose qu'elle a fait, ça a été d'acheter un appartement sur le Grand Canal, dans un petit palais.
Tout le monde fait ça en arrivant.
Ben voilà, ça. 230 mètres carrés, n'est-ce pas ? Bon, elle avait les moyens. Bref, elle achète son appartement, elle s'installe et c'était en été, tout allait bien. Arrive l'automne, donc 3-4 mois après son installation. Et en rentrant un soir avec pas en gondole, mais en canot à moteur, elle constate... Vaporetto. Non, un petit canal à moteur personnel. Ah. Bon. Ah, elle constate que la paroi du palais est arrondie au-dessus du Grand Canal. Donc, elle fait venir un ami architecte et elle lui demande de lui expliquer ce qu'il en est. Et l'ami architecte lui dit, après une petite étude, « Ma pauvre amie, il va falloir que vous entendiez avec le type du dessus et le type du dessous parce que ça va s'effondrer. Et il faut absolument renforcer, ça va coûter cher, hein, vous ne pouvez pas faire ça toute seule. » Alors, elle essaye de séduire le type du dessus, il n'y a rien à faire, ils ne veulent pas sortir un sou. Alors, elle décide de remettre son appartement en vente. Et elle explique qu'elle a revendu son appartement avec un bénéfice 3 mois après, bien qu'elle ait signalé par honnêteté à l'acheteur que le mur était gondolé. Elle s'est offert un appartement sur les Hauts de Venise en location. Et elle dit maintenant, quand je vois une fissure, j'appelle mon propriétaire et je lui dis, il y a une fissure là. Et je suis ravie et je peux dormir. Voilà.
Alors, Donna Leone,
Mort à la Fenice.
Voilà.
Et c'est collection Point. C'est pas récent. Hein, c'est
le premier. Hein,
tu oui,
disais,
c'est le premier.
C'est son premier.
Pan. 92.
En effet.
Mais depuis, il y en a eu tout un tas. Ouais, et curieusement, ils sont tous valables parce que Venise a beau être admirée, réparée. On fait des tas de... Ne serait-ce qu'à la Fenice qui a été reconstruite deux fois, ouais. Hein, dont une en mettant l'argent dans la poche des administrateurs. Et à chaque fois, on a de nouveau de la corruption, de nouveau... voilà. Il y a les riches plus que riches et les pauvres plus que pauvres.
Merci Anne. Alors pour clôturer ces...
ça ne va pas être tout à fait gai. J'ai dit que c'était un petit roman. Ouais, en fin de compte, même pas. Ce n'est pas un roman, moi, je pense. Mais bon.
Un roman récent.
Alors, c'est récent, puisque c'est le Goncourt 2017. Donc, ce n'est pas vieux. C'est un livre qui est sorti donc au printemps 2017. Et ça s'appelle « L'ordre du jour » d'Éric Vuillard. Éric Vuillard, qui est quand même connu pour sa connaissance et son analyse des faits historiques. Hein. On se souvient de son 14 juillet. Et voilà. Et en fait, je ne l'avais pas lu, parce que j'ai une... Bêtement, je dis, c'est le Goncourt, je ne vais pas le lire.
Et puis,
je l'ai lu il y a très peu de temps. Hein, je ne pensais pas à venir avec. Et en fin de compte, je trouve que c'est un récit. C'est très court. C'est fulgurant. Ce n'est pas un livre historique, parce qu'on est vraiment aussi dans le présent, dans toute son analyse. Et en fin de compte, ce récit, ça analyse, ça raconte, si on peut dire, mais c'est plus une auscultation ou une radiographie des prémices de la Deuxième Guerre mondiale, à travers deux événements ou deux journées. Hein. Le premier, c'est la réunion du 20 février 1933. En fait, Göring fait venir tous les grands industriels ou banquiers allemands pour leur demander un petit coup de main. Et puis l'autre grand moment, le deuxième moment, c'est consacré, alors un peu plus long, à l'Anschluss, c'est-à-dire à l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne le 12 mars 1938, en montrant aussi, c'est-à-dire que c'est à la fois une analyse de la façon dont les événements historiques se construisent à la minute, à la fois de la fragilité des enchaînements, de l'ironie, si on peut dire, même si là, on est dans le dramatique, mais il y a une ironie mordante sur, parfois, l'aveuglement, la bêtise, la folie de tous ces êtres qui font notre vie, qui ont fait notre histoire. Mais il quitte un peu l'histoire parce qu'il nous fait un petit signe, Éric Vuillard, en nous disant que ces gens-là sont les mêmes aujourd'hui.
Tout à fait.
Il ne faut pas s'inquiéter, on a les mêmes et on recommencera. Voilà.
C'est curieux parce que ce matin, j'ai lu dans Le Point une chronique de Bernard-Henri Lévy où il compare les grandes puissances actuelles qui n'ont pas voulu participer aux frappes sur la Syrie à ceux qui ont poussé un ouf de soulagement au moment des accords de Munich.
Voilà. Mmh. Et alors, il fait toute cette analyse avec la naïveté des Français et des Anglais, parce qu'ils veulent à tout prix la paix, en fait, à n'importe quel prix. Et le prix va être très, très cher.
Très lourd,
sait,
oui.
Très cher. Et quand on voit son analyse, alors, tout ce que dit Éric Vuillard, ce sont des faits historiques. Mmh. C'est-à-dire, il n'extrapole pas, ce sont des faits historiques. Mais on voit que c'est... La veulerie, l'aveuglement de certains, je veux dire, qui fait que ces événements se sont passés. Mmh. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle du bluff. Mmh. C'est-à-dire, Hitler a fait un énorme coup de bluff de poker. Alors, je vais vous lire un tout petit, petite coupure pour que vous voyez un peu l'ambiance. Alors, il faut dire qu'Éric Vuillard, il a à la fois l'art du microscope, c'est-à-dire il détaille chaque chose et puis il prend du recul. Donc, on a une vision plus large des événements. Nous sommes un lundi. La ville remue derrière son écran de brouillard. Mais le 20 février de cette année-là ne fut pas une date comme les autres. Des messieurs sortaient de voiture devant un palais. Ils étaient 24, près des arbres morts de la rive. 24 par-dessus, noir, marron ou cognac. 24 paires d'épaules rembourrées de laine. 24 costumes, 3 pièces et le même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent dans le vestibule du palais du président de l'Assemblée. On se serre dignement la main avant de monter sur scène. Les vénérables patriciens sont là dans le grand vestibule. Ils échangent des propos badins, respectables. On croirait assister aux prémices un peu guindées d'une garden party. Ils sont à présent silencieux, bien sages. Alors juste, je veux tricher en disant, il parle de tous ces personnages et ils disent « Nous sommes au nirvana de l'industrie et de la finance ». Je vous dirai qui sont tous ces personnages. Quelques minutes s'écoulèrent lentement sous le haut plafond. On échangea quelques sourires. Soudain, les portes grincent, les planchers crissent, on cause dans l'antichambre. Les 24 lézards se lèvent sur leurs pattes arrière et se tiennent bien droits. Et enfin, le président du Reichstag pénètre en souriant dans la pièce, c'est Hermann Göring. Göring fit donc son tour de table, mais le président du Reichstag n'est pas seulement venu les accueillir. Et il rognonne quelques mots de bienvenue et évoque aussitôt les élections à venir, celles du 5 mars. Les 24 sphinx l'écoutent attentivement. La campagne électorale qui s'annonce est déterminante, déclare le président du Reichstag. Il faut en finir avec l'instabilité du régime. L'activité économique demande du calme et de la fermeté. Les 24 messieurs hochent la tête religieusement. Et si le parti nazi obtient la majorité, ajoute Göring, ces élections seront les dernières pour les 10 prochaines années. Et même, ajoute-t-il dans un rire, pour 100 ans. Un mouvement d'approbation parcourut la travée. Ils écoutèrent. Le fond du propos se résumait à ceci. Il fallait en finir avec un régime faible, éloigner la menace communiste, supprimer les syndicats et permettre à chaque patron d'être un fureur dans son entreprise. Le discours dura une demi-heure. Et à la fin, avec humour, il dit qu'une fois qu'il se fut retiré, Göring prit la parole, reformulant énergiquement quelques idées, évoqua de nouveau les élections et... personnage rajouta « Et maintenant, messieurs, à la caisse. » Donc, tous ces messieurs...
Et alors, ces messieurs, oui.
Alors, ces messieurs, bah, vous les connaissez tous. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce sont des personnes physiques et ce sont devenues des personnes morales.
Oui.
C'est-à-dire que c'est Opel, Telefunken, tous ces noms, Krupp, ils dirigent BAF, Bayer, Siemens, Allianz, Telefunken, toutes ces entreprises
qui sont restées toujours
qui
dans
ont
la main.
Donné de l'argent, et sans cet argent, Hitler n'aurait pas pu se présenter, qui ont donc été le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, et qui ont donné tout ce pouvoir à cet homme, qui ont fait un très bon placement, puisqu'ils se sont enrichis pendant toute la guerre. Ils ont eu de la main-d'œuvre vraiment pas chère, puisque tous ces gens-là qui ont... Je veux dire, vous avez encore les machines à laver, les télévisions, les radios, les je ne sais pas quoi. Tout ça, toutes ces fortunes ont été faites sur les déportés qui ont travaillé pour eux jusqu'à en mourir. Et il décrit très bien...
Et le STO, parce qu'il n'y avait pas que les déportés.
Et il fait, alors, les déportés, parce que sur je ne sais plus quelle entreprise, si c'est Opel ou autre, sur les 3000 qu'il a eu, il en est resté 20.
Oui.
C'est pour donner une idée de ce qui se passait. Et tout ces... Alors, il fait le lien, c'est pas que ces événements, parce qu'on va aussi au procès de Nuremberg, où ces gens sont surpris qu'on les accuse là-dessus, parce qu'ils avaient une telle... Ils étaient tellement imbueux, entre autres Göring, enfin, de tous ces gens-là, c'est qu'à la fois, ils avaient le discours fabriqué pour ne pas choquer quand c'était possible, mais derrière, ils donnaient aussi la vraie parole, parce qu'ils étaient tellement persuadés qu'ils allaient réussir qu'il fallait qu'ils montrent ce qu'ils avaient fait. Donc il y a tout ce travail d'analyse de ces événements, comment ils se sont construits, et c'est à la fois, c'est très court, c'est fulgurant, c'est effrayant. Il dit « Les plus grandes catastrophes, ça c'est l'auteur, s'annoncent souvent à petits pas et soulèvent les haillons hideux de l'histoire ». Pour raconter donc la marche vers l'abîme et la destruction de l'Europe à travers ces deux moments. Alors il s'étend encore plus sur l'Anschluss parce que ça devient presque drôle malheureusement. Parce que c'est tout le pantin, il enlève le Premier ministre, le chancelier et il lui dit « faut nous laisser rentrer, etc. Hein. » Et puis il hésite, il dit « puis il dit « bon, bah, d'accord, parce qu'il n'a pas trop le choix ». Et après il retourne et le président qui est, normalement on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il réagisse, il dit « ah non, ça n'est pas possible ». Enfin, il y a toute une sorte de jeu ridicule pendant que toutes les troupes attendent en disant « mais qu'est-ce qu'il fiche ?» En plus, il nous raconte que les chars allemands n'étaient pas bons du tout, il y avait des pannes énormes. Enfin bref, ça a failli tourner au fiasco.
Oui, oui.
Mais il n'y avait qu'une seule parole et les images, qui étaient que les images filmées par les nazis...
Et les gens étaient tétanisés par cette...
Et ils montraient la joie, la liesse des Autrichiens, etc.
De la vie de tous, il avait une voix, Hitler, qui vous transportait, c'était vraiment
un orateur.
Il le dit bien à un moment, je ne sais plus quel personnage, puisqu'il cite les mémoires de certains de ces personnages, qui dit on était fascinés quand il parlait par son regard, par sa voix, par sa... La parole était, comme un magicien.
Tout à fait. C'est aussi ce que disait Benoît Méchain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Benoît Méchain. Il a écrit des tas de livres sur l'histoire de cette époque. Il a même été enfermé parce qu'il a fait partie du gouvernement Pétain pendant très peu de temps. Benoît Méchain, il a une culture allemande. Et il a été, pour je ne sais plus quelle raison, invité à Berchtesgaden. Et il a rencontré Hitler pendant une après-midi. Et il dit, dans ses mémoires, il dit... j'ai été tétanisée comme un oiseau face à un serpent. par son regard et par sa voix.
Oui, tout à fait.
C'est un type qui...
Enfin, ça fait froid dans le dos, hein, quand même.
Et puis,
quand on voit des images d'archives.
Exactement. Et puis, l'autre chose aussi qui rentre en ligne de compte, c'est que la population allemande était derrière lui parce qu'il était celui qui les avait tirés de la misère. Il ne faut pas oublier que pour acheter une baguette de pain, il fallait emporter une valise de billets en 1928 ou 29. Hein.
Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à... Tu disais que ce n'est pas vraiment un roman.
Non, c'est un récit.
Un récit, mais ce n'est pas non plus un livre d'histoire.
Non.
Donc,
non.
Comment on peut
situer
En fin de compte, il analyse
un événement,
oui, c'est une analyse,
mais il l'analyse en traversant nos époques, si tu veux.
D'accord.
C'est-à-dire que quand il dit, par exemple, un autre passage, il met, je le cite, « Ils sont là parmi nous, entre nous, ils sont nos voitures, nos machines à laver, nos produits d'entretien, nos radios réveil, l'assurance de notre maison, la pile de notre montre. Ils sont là partout sous forme de choses. Notre quotidien est le leur. » C'est-à-dire qu'il fait vraiment le
transfert des conséquences.
C'est-à-dire que c'est cette notion de personne morale, c'est-à-dire l'homme peut mourir. Von Oppel est mort, tous ces gens-là sont morts. Et cette richesse qui s'accumule, c'est ce pouvoir fabuleux de la richesse, on est dépendant encore de ces gens-là qui ont fait des monstruosités, complètement liées à ça. Voilà. Alors, après, c'est pas... je pense que ce qui est intéressant, c'est... bien sûr, c'est une page d'histoire, mais c'est pas un roman historique. On vous raconte pas... C'est comme dans 14 juillet, si vous l'avez lu, il nous fait pas un roman du 14... Il prend des éléments, des gens qui ont existé. Là, il nous décrit le Chamberlain, il nous décrit tous ces gens-là, je vais dire qu'on a connus, mais qu'on a connus à travers les livres d'histoire. Ce sont des êtres humains avec leur lâcheté, leur bêtise, parfois des moments de courage, leur aveuglement... Et on se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'on a du recul. Et en fin de compte, on est peut-être exactement dans la même situation. Et dans quelques temps, en espérant qu'il y ait encore quelqu'un pour se dire, mais comment ont-ils pu laisser faire ça?
Exactement.
Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est fulgurant. Ça se lit en deux jours. Hein,
c'est rien du tout. Je vois là ce que ne peuvent pas voir les auditeurs. C'est un petit livre.
Oui, c'est un tout petit livre. C'est passionnant. Même si parce que c'est nous, c'est notre vie, c'est notre histoire.
Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi un peu la mémoire, quoi, aussi. Il ne faut pas oublier ça.
Et c'est nous forcer. Je peux me permettre de lire le dernier petit chapitre.
Vraiment, deux secondes. Hein.
C'est juste sa fin. On ne tombe jamais deux fois dans le même abîme, mais on tombe toujours de la même manière dans un mélange de ridicule et d'effroi. Et on voudrait tant ne plus tomber qu'on s'arc-boute, on hurle. À coups de talon, on nous brise les doigts. À coups de bec, on nous casse les dents, on nous ronge les yeux. L'abîme est bordé de hautes demeures. Et l'histoire est là, déesse raisonnable, statue figée au milieu de la place des fêtes, avec pour tribu, une fois l'an, des gerbes séchées de pivoine et en guise de pourboire, chaque jour, du pain pour les oiseaux.
Voilà, à bon entendeur.
Voilà.
Merci mesdames.
Alors peut-être une petite...
Un petit conseil pour cet été.
Voilà, sachant que c'était notre dernière intervention, j'ai sélectionné trois livres différents. Le premier est une biographie d'Alexandra Lapierre qui s'appelle Artemisia, qui est l'histoire d'une femme peintre au XVIe siècle. Absolument extraordinaire, cette biographie. On est dans le sang et dans les larmes, parce que vraiment, pour arriver à se faire connaître, elle a dû souffrir horriblement. Elle était peintre à Rome et à Naples, et il y a encore des tableaux d'Artemisia. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une exposition. Elle s'appelait Von Gentileschi, et il y a eu une exposition dans un des musées parisiens d'elle et d'autres. C'était pas elle toute seule. Donc c'est un livre à lire. Hein. C'est chez Pocket. Le deuxième est aussi une biographie un peu spéciale qui a reçu le prix féminin en 2012. C'est Peste et choléra de Patrick Deville, qui est la vie de Yersine, le découvreur du bacille de la peste. Mais il n'a pas fait que ça. Il l'a découvert à 23 ans et là, il s'est ennuyé à l'Institut Pasteur. Donc, il est parti à travers le vaste monde comme médecin sur un bateau. Il a été découvreur. C'est lui qui a créé la ville de Dalat en Indochine. C'était vraiment un homme extraordinaire. Plus personne ne parle de lui, on ne parle que de Pasteur. Moi, j'aurais tendance à dire que Pasteur et Yersin valent toutes les deux, se valent l'un et l'autre. Et le troisième, alors c'est le premier d'une série. J'espère que ceux qui liront le premier liront la série. C'est Bleu de Michel Pastoureau. chez Point. Alors après Bleu, il a écrit Noir, il a écrit Rouge, et puis il a écrit L'Ours, il a écrit L'Homme et le Cochon, enfin tout un tas d'analyses extraordinaires, mais le premier est le meilleur, comme souvent. Bleu, c'est l'histoire de la couleur à travers les siècles. C'est une merveille à lire.
Merci beaucoup.
Et c'est chez Point aussi.
Très
les
bien.
Trois, enfin, les deux derniers sont
faciles à transporter dans le sac de plage.
Voilà,
exactement.
Ça, même s'il y a des grains de sable, c'est pas grave.
Franchement, enfin, autant les uns que les autres, je suis rentrée dedans et j'ai attendu d'en sortir. Hein, la fin.
Oui, mais vous êtes une passionnée. Hein, aussi,
super. Oui, mais enfin, en même temps, quelquefois, on a autre chose à faire. Mais là, vraiment, prenant.
Catherine, t'as pas fait tes devoirs alors?
Non, maintenant j'ai oublié. Qu'est-ce que tu veux? Je suis dans.
Il y en a pas un qui te vient là comme ça?
Non, puis je voulais peut-être. Je cherchais un peu, mais plutôt dans la légèreté, puisqu'il me vient, c'est pas dans la légèreté.
Alors si, j'en ai un quatrième. Mais alors tout dernier, tout nouveau, je l'ai eu à lire pour le prix du roman historique de la ville de Blois, et j'ai beaucoup aimé, bien que ça ne soit absolument pas un roman, donc il sera pas sélectionné. Ça s'appelle La petite danseuse de 14 ans. Mm-hmm. C'est pas très long à lire. C'est l'histoire du modèle de la petite danseuse de Degas. Parce que, comme le dit la quatrième de Couve, on connaît la danseuse à travers le monde entier. Qui se souvient d'elle? Qui sait où elle est enterrée? Qui sait comment elle a vécu? Et ce livre, c'est l'histoire de cette jeune fille et l'histoire de son époque. Et ça vaut vraiment le coup d'être lu. Alors, de l'auteur lui-même, c'est un essai, c'est une enquête, c'est une recherche... Nulle part est prononcé le mot roman. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt une enquête historique. C'est de Camille Laurence. Voilà. Je ne peux pas vous dire la librairie, je ne sais pas. J'ai oublié.
Non, mais
Stock,
voilà,
je crois.
On a l'essentiel.
Je crois que c'est chez Stock.
Bon, merci beaucoup. Et puis, la prochaine émission du Vent dans les Pages sera consacrée donc aux éditeurs en devenir et confirmer. Donc, mesdames, on se retrouve certainement à la rentrée, au mois de septembre, octobre, on verra, on vous donne des nouvelles. Sur ce, je vous souhaite un excellent été.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve bientôt sur Studio Zef. Vous pouvez réécouter cette émission sur studiozef.fr. À très bientôt.
À très bientôt.